Il est 19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Jean-Roger Billon à ce micro. Sportrama, l'actualité sportive en Afrique et dans le reste du monde. C'est dans un instant et ce sera avec Bagassi Koura. Je vous propose tout d'abord un bulletin d'information. Le Mali s'est déclaré en guerre contre le groupe armé après les combats meurtriers pendant la visite du Premier ministre Moussa Maha samedi à Kidal. Soumelou Boubey Maïga, ministre malien de la Défense, a annoncé qu'il y a eu 36 morts, dont 8 militaires et une trentaine de personnes prises en otage par les rebelles du MNLA. À Gao, la grande ville la plus proche de Kidal, plusieurs centaines de jeunes et de femmes ont manifesté contre les derniers événements. Sur place, notre correspondant Boubacar Touré.
La marche des jeunes est partie du rond-point de la place de l'Indépendance au gouvernorat où ils ont été accueillis par Amadou Baba Sidibé, gouverneur de la région de Gao. Sur les pancartes qu'il brandissait, on peut lire « Libérez les otages, nous condamnons les atrocités de Kidal » ou encore « La jeunesse de Gao soutient l'armée malienne ». Trop, c'est trop, la lutte continue. Les forces étrangères présentes au Mali, il s'agit de la MINUSMA et de la force Serval, doivent clarifier leur position par rapport à Kidal.
L'armée française il doit se clarifier par rapport à cette situation-là. S'ils sont avec le Mali, ils le disent. S'ils ne sont pas avec le Mali, ils le disent.
L'objet de cette manifestation, c'est de soutenir l'armée malienne. Et nous demandons la libération de Kidal.
Amadou Baba Sidibé, gouverneur de la région de Gao, qui a accueilli les responsables des jeunes, les a rassurés que toutes les dispositions sont prises pour gérer Kidal une fois pour toutes. Gao, Boubacar Touré pour La Voix de l'Amérique.
En République centrafricaine, les réactions se multiplient au lendemain de la mise en place d'un nouvel état-major des ex-Seleka Bambari. L'archevêque de Bangui, Mgr Dieudonné Nzapalenga, a dénoncé le mutisme des autorités de la transition et le premier ministre Nzapeike a promis de punir les auteurs. Le dépouillement du second tour de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau se poursuit. Les Bissau-Guinéens avaient à choisir hier entre José Mario Vaz, du principal parti du pays, PAIGC, et le candidat indépendant Nuno Gomez Nabiam. Les résultats doivent être proclamés au plus tard ce jeudi en vertu de la loi. Nouveau procès de masse en Égypte. Selon l'agence France Presse, 169 partisans du président destitué Mohamed Morsi ont été acquittés. Ils étaient poursuivis dans le cadre des émeutes du 14 août au Caire, alors que la police réprimait des manifestations pro-Morsi. Et puis en Libye, un groupe armé a pris d'assaut le Parlement, une offensive que Tripoli considère comme une tentative de coup d'État. Jacques Aristide.
Le colonel Mokhtar Fernana a annoncé ce qu'il appelle la suspension du Parlement libyen à Tripoli, la capitale. Il dit parler au nom de l'armée et affirme qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Le gouvernement de transition a condamné l'attaque qui aurait fait 2 morts et environ 50 blessés. Les auteurs sont soupçonnés d'appartenir à une milice fidèle à l'ancien général Khalifa Haftar, qui assure ne pas viser le pouvoir, mais cherche à lutter contre des islamistes armés, dont certains représentés par des députés. Le ministre de la Justice, Salah al-Marhani, a appelé à éviter tout recours à la force pour exprimer des opinions politiques. Dans l'est du pays, à Benghazi, une base aérienne a été attaquée à la roquette dans la nuit de dimanche à lundi, après des combats meurtriers vendredi entre les forces du général à la retraite et des miliciens islamistes.
Le président russe Vladimir Poutine a ordonné aux troupes massées près de la frontière avec l'Ukraine de retourner à leur base. Une annonce faite lundi, une semaine avant une élection présidentielle cruciale en Ukraine. L'OTAN a déclaré n'avoir observé aucun signe de retrait militaire. Et puis, le gouvernement américain a inculpé 5 officiers de l'armée chinoise d'espionnage économique. Le ministre de la Justice, Eric Holder, a reconnu ce lundi que toutes les nations mènent des activités de renseignement. Cependant, il dénonce l'espionnage conduit par une unité de l'armée chinoise à Shanghai, qui fournit d'importantes informations à des entreprises étatiques et privées. Vous écoutez La Voix de l'Amérique, ne partez pas, restez sur vos sièges. Le sport dans toutes ses dimensions, c'est maintenant et c'est avec Bagassi Koura.
Oui, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce numéro spécial de Sportrama. Comme tous les lundis, donc, dans notre émission, les résultats les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de Sporama. Nous attendons vos appels, bien sûr, en direct. Composez le 001-202-619-3140. Avec nous ce soir aussi, nos consultants. D'abord, Jules Valentin Gouet, en ligne de Libreville au Gabon. Bonsoir, Jules.
Bonsoir, Madame Sikoura. Bonsoir à tous.
Voilà, content de vous retrouver et nous attendons donc vos appels ici, le 001-202-619-3140. Nous avons aussi en ligne Élisée Mpatina à Boïcon, au Bénin. Bonsoir, Élisée.
Bonsoir, Bakary Sikoura et bienvenue au Bénin.
Et enfin, Salif Kabouré à Ouagadougou. Bonsoir, Salif.
Bonsoir Bagassi, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Ouagadougou.
Voilà, et sans plus tarder, on commence par le premier tour aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2015, donc, qui s'est achevée ce week-end. Et samedi déjà, Malawi a battu le Tchad 2-0 et la Mauritanie a eu raison de la Guinée équatoriale, 1-0, un but de Diakité. La Namibie a battu le Congo-Brazzaville 1-0. Jules, résultat assez décevant pour les Diables Rouges. Comment peut-on expliquer cela?
Non, mais il faut dire que les Diables Rouges ont perdu par 1-0, mais il ne faut pas oublier également que la Namibie était un ancien habitué des phases finales et donc le niveau du football dans ce pays n'est pas à négliger. Surtout que la dynamique générale de la SADC qui organise très bien les compétitions et très régulièrement amène pratiquement les pays de l'Afrique australe à progresser régulièrement.
Voilà,
et donc, c'est pas un score qui est étonnant.
Oui, et on verra comment les deux équipes vont se comporter à Brazzaville lors du match retour. Et Sao Tomé-Bénin, 2-0 pour le Bénin. Deux buts de Sessegnon à la 80e et 90e minute. Ce dernier but a été marqué sur pénalty. Élisée, Sessegnon, c'est un peu le métronome de cette attaque des écureuils. Hein, et il semble bien en forme.
Oh oui, surtout qu'il a connu une fin de saison époustouflante du côté de West Bromwich. Oui. C'est vrai, il était blessé en début de saison et s'est retrouvé maintenant au sein de cet effectif à la fin de la saison où il a marqué, lors de la dernière journée même, il a marqué le seul but d'ailleurs de son club. C'est vrai, son club a été battu à domicile par Stoke City, c'est vrai. Aujourd'hui, il est le maître à jouer de cette équipe nationale de football du Bénin, les écureuils comme on les appelle. C'est un résultat très bien, en attendant de bien gérer le match retour et d'attendre le vainqueur du match entre le Malawi et le Tchad, même si le Malawi a déjà pris une sérieuse option. C'est-à-dire que Didier Olé-Nicole n'a pas sous sa main tous les titulaires, mais il a fait avec quelques joueurs locaux, ceux-là qui évoluent dans le championnat national. C'est déjà un bon résultat.
Et ce sont presque les mêmes joueurs qui ont joué contre l'Algérie il y a quelques mois?
Non, pas du tout. Il y a seulement 5 qui étaient présents contre l'Algérie. Il y a le gardien de but de l'association sportive du Port-Honor de Cotonou, Satunia Alagbe. Il y a aussi le capitaine Stéphane Sessegnon. Il y a Michel Poté, il y a Razak Omote aussi, le meilleur buteur de la sélection nationale du Bénin. Et il y a aussi Pascal Anga, même si ce dernier n'était pas titulaire. Voilà, 5 joueurs qui étaient présents déjà face à l'Algérie.
Alors, Salif, ces dernières années, le Libéré a manqué quand même quelques rendez-vous. Mais lors de son match hier, le Libéré a battu le Lesotho 1-0. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette équipe du Libéré, peut-être en pleine reconstruction?
Oui, voilà, vous avez tout à fait bien dit, c'est une équipe en pleine reconstruction, parce qu'on se rappelle toujours dans l'époque de Georges Weah, où le football libérien était véritablement donc fait de football assez très professionnel, qui ne manquait pas en tout cas certains grands rendez-vous. Je me rappelle encore que même contre les étalons ici à Ouagadougou, pour ce défait du Libéria, c'était véritablement un sérieux problème. Et aujourd'hui, voir cette équipe-là qui est en train de revenir, parce que n'oubliez pas aussi que ce pays a connu en tout cas des soubresauts assez très énormes. Donc tout cela avait contribué entre-temps en tout cas à ternir ou à remettre en cause en tout cas la venue de ce football. Je crois aujourd'hui, le Libéria a véritablement de revenir sur la scène internationale pour démontrer une fois de plus que bon, voilà, c'est un pays qui peut toujours jouer en tout cas un grand rôle sur le continent africain en matière de football. Donc je crois que c'est petit à petit, c'est une victoire en tout cas qui met davantage en confiance en tout cas les fans du football libérien.
Voilà, merci Salif. 1-0 donc pour le Libéria face au Lesotho. Même score d'1-0 pour le Kenya face aux Comores. Jules, un mot sur ce football kenyan?
Oui, le football kenyan qui a toujours souffert de la concurrence de l'athlétisme, concurrence irrésistible de l'athlétisme, mais c'est un football solide. Le Kenya était très régulièrement dans les phases finales, même s'il ne traversait pas le premier tour, mais c'était une équipe présente et difficile à battre. Et même le score de 1-0 contre le Comores est un score qui, est, ma foi, nous paraît assez difficile à accepter dans la mesure où l'écart entre les deux nations dans le football était réellement plus notable. Ouais. Mais il faut dire qu'en Afrique maintenant, il n'y a plus de petites équipes et que et finalement, le nivellement de valeur se fait de plus en plus pressant.
Ouais. Et puis, un autre match qui a retenu notre attention, c'est celui remporté par Madagascar qui a battu donc l'Ouganda 2-1. Et vous savez, on ne parle pas presque pas du sport de la Grande Île hein, dans cette émission, mais elle fait là un grand retour avec cette victoire surprise. Parce que l'Ouganda a quand même une très bonne formation, Salif Kabore.
Il faut dire quand même que, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, il y a plus de petites équipes, hein, même au niveau des compétitions internationales comme la Coupe d'Afrique des Nations de football, il y a souvent des surprises qui sont là. Ceux-là qu'on pense qu'ils sont petits arrivent à un moment donné à arriver à un niveau assez très élevé et ça surprend. Vous voyez Madagascar par exemple, hein, c'est une nation qui n'est pas très bien connue dans le domaine du football. Aujourd'hui, bon, arriver à battre l'Ouganda, surtout on sait que l'Ouganda aussi s'est battu à un moment donné. Ce pays avait réussi à installer son football sur le plan africain. Et quand on parlait du football ougandais, il fallait véritablement voir des joueurs qui étaient professionnels, qui jouaient soit au Portugal, soit en Espagne, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, Madagascar arrivait à se défaire de cette nation de football. Je crois que c'est une très bonne chose et c'est encourageant. C'est pour dire aujourd'hui que, quelque part, en tout cas, il y a des efforts qui sont faits. Et je pense que ça inspire aussi d'autres nations qui sont toujours à rester, à se ici à travailler davantage pour pouvoir défier les grandes nations du football. Pourquoi pas?
Voilà, et un autre résultat, c'est Libye-Rwanda 0-0, Burundi-Botswana. Match nul également 0-0. République centrafricaine, Guinée-Bissau également match nul 0-0. Et Swaziland, Sierra Leone ont fait match nul 1-0. La Tanzanie a battu le Zimbabwe 1-0. Et le Mozambique a eu raison du Soudan du Sud 5-0. Jules, est-ce que pour le cas du Soudan du Sud, c'est un pays qui a à peine 2 ans. Hein, et quand on sait tout ce qui se passe là-bas, est-ce qu'on peut vraiment parler d'équipe nationale?
Oui, bien sûr, ça c'est le cas vraiment pendant ces éliminatoires et un pays qui est déstabilisé par la guerre, il est très difficile réellement de parler d'une équipe nationale sereine. Ouais. Et ma foi, non seulement et cette équipe est réellement le petit poussel, la jeune nation parmi les pays en lice, mais en plus il y a ce contexte. Donc, le score même d'un 1-0, un score normal en football, nous étonne ici. Et le fait même que le match ait pu avoir eu lieu est une performance. Mais on souhaite bonne chance à cette nation sur tous les plans, qu'elle retrouve son équilibre interne et qu'elle arrive dans l'arène africaine avec les mêmes chances que les autres.
Voilà, je vous le rappelle, Mozambique a battu donc le Soudan du Sud 5-0. Voilà, on reste en football et on passe à autre chose à présent, en phase de poule de la Ligue des Champions. Dans le groupe A ce week-end, donc, défaite du TP Mazembe de la RDC en déplacement au Soudan. Les Corbeaux ont perdu 1-0 face à Al Hilal. Donc ça, c'est un score quand même assez surprenant, hein, Élisée.
Oui, c'est un résultat surprenant compte tenu de l'adversaire en face, hein, qui n'est rien d'autre que le tout-puissant Mazembe. Quand vous avez suivi ce match, en témoigne la réaction de l'entraîneur brésilien du club Al Hilal du Soudan. C'est vrai, déjà à quelques minutes de la fin, l'entraîneur qui demandait aux supporters de rester derrière leur formation pour que le tout-puissant ne puisse pas égaliser, puisque vers les 15 dernières minutes, hein, le Corbeau mettait une pression énorme sur les Soudanais, mais ils ont pu tenir ce résultat, un but bien marqué d'ailleurs sur un centre en retrait. Et c'est El Diawa qui reprend ce centre en retrait sur coup tête qui a battu Kidiaba, le gardien congolais de cette formation du tout-puissant Mazembe. Les Corbeaux ont tout fait, mais ne sont jamais parvenus à égaliser. C'est un bon résultat pour les Soudanais de Al Hilal, quand on sait que plus de clubs soudanais ne s'est plus qualifié pour la phase de poule il y a cela 2 ans. Donc c'est déjà un bon résultat pour un début de cette campagne africaine des clubs.
Oui, un début, on peut le dire, assez mitigé pour la RDC, Jules, puisque l'AS Vita Club donc, de la RDC a battu 2-1 le Zamalek d'Égypte. Donc on peut dire que c'est un peu balancé là.
Oui, surtout que ce match a été très équilibré. Le Zamalek a pendant très longtemps joué la prudence et même joué au chat à la souris face au Vita Club qui était obligé de faire le résultat. Et quand les Égyptiens menaient 1-0, ont accéléré vers la fin de la rencontre, ils ont égalisé assez facilement, mais ont été surpris par une passe derrière la défense qui revenait d'un contre du Vita Club à la 80e minute pour perdre tout espoir de gagner le match. Mais on peut dire que la rencontre est équilibrée. Dans cette poule, il faudra sûrement attendre la dernière journée pour savoir qui passera.
Ouais, une dernière journée qui s'annonce très prometteuse. Et dans le groupe B, l'Espérance de Tunis est tombée face à l'Entente Sétif d'Algérie. 2-1. Le CS Faxien a écrasé Ali Benghazi. 3-1. Ali Benghazi de Libye, donc. Voilà, ce week-end, on ne jouait pas seulement en Coupe de la Confédération, en Coupe de la Ligue, il y a aussi la Coupe de la Confédération, la phase de poule et dans le groupe A à Bamako. L'AS Real du Mali a fait un score d'un but partout contre l'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire. Ce sont les Ivoiriens, il faut le rappeler, qui ont ouvert le score. On écoute d'abord l'appréciation d'après-match de Nuhunu Diané, il est l'entraîneur de l'AS Real.
On savait que l'ASEC était venu avec une option, ça, de jouer bas et essayer d'aller sur de procéder par des situations de contre. On le savait déjà parce que j'ai eu l'opportunité quand même de voir les matchs qu'ils ont fait. Et après, je pense que sur le plan technique, les deux équipes s'évalent. Hein. Et honnêtement, on a vu un très bon football où il y avait cette maîtrise-là. Mais après, on prend un but. Réellement, le but, c'est un but de colle. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Et il fallait réagir et égaliser, tout faire quand même pour ne pas perdre à Bamako. Et je pense qu'on a fait des remplacements qui ont apporté, qui ont donné des solutions et puis on a pu égaliser. Mais au-delà de tout ça, je pense honnêtement que nous avons assisté à un très très bon match sur le plan technique. Souvent, il y a des jours comme ça. Moi, je ne me mets pas seulement dans le pot de l'entraîneur. J'ai été joueur de football aussi. Je me dis qu'il y a des jours où c'est réellement compliqué, même si quelque part on est dessus, mais ça arrive.
Voilà, ça arrive en football. C'était Nuhunu Diané, l'entraîneur de l'AS Real. L'AS Real qui a fait un match nul contre l'ASEC Mimosa, un but partout. On écoute maintenant l'entraîneur de l'ASEC, Siaka Traoré. Il explique que ce match nul à l'extérieur est un plus.
Hormis le score, je pense que ça a été un bon match dans l'ensemble. En face, on avait une bonne équipe qui sait jouer au foot. Je pense que déjà, c'est important. Il faut être à deux pour jouer au foot. Hein, chacun a eu un temps fort, puis un temps faible. Encore une fois, pour nous, en point, je pense que c'est des matchs à points. Hein, c'est des matchs à points, c'est des points. Surtout qu'on est en déplacement, point, c'est pas mauvais. On ne peut rien contre ça, c'est ce qui a été décidé. Et donc, moi, je pense que nous, on part trop dessus quand même. Avec un point, je pense que c'est encore jouable. C'est un match à champ. C'est 2 points de perdu parce que si vous voyez sur l'égalisation, je pense que ça manquait un peu de maturité, je pense, sur l'égalisation. Il n'y avait pas de danger. Il n'y avait pas de danger de but. Bon, qu'est-ce que tu veux? C'est arrivé. Il faut accepter. Je dis encore une fois, c'est un championnat. Quand tu prends un point à l'extérieur, c'est important pour la suite des autres matchs.
Voilà, donc c'était Siaka Traoré, l'entraîneur de l'ASEC Mimosa d'Abidjan, qui était donc en déplacement ce week-end à Bamako. Salif, connaissant bien l'ASEC, qui était quand même un très grand club, hein, et qui se retrouve aujourd'hui à se contenter d'un match nul face à l'AS Real, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus?
Bon, je
crois que c'est vrai, la SEC Delta n'est plus comme on le pense, mais je crois que réussir à obtenir le match nul à Bamako, c'est une très bonne chose. En tous les cas, la pression maintenant sur l'AS Real de Bamako, c'est là où je ne comprends pas, parce que quand même, l'AS Real de Bamako a eu plus de compétition que la SEC, dans la mesure où, au niveau de l'équipe junior, les éclons sont composés à 80% de joueurs de l'AS Real. Ils étaient à Ouagadougou la fin dernière avec le junior Burkinabé dans le cadre de
l'Ouagadougou.
Il faut des moins de 20 ans. Aujourd'hui, j'ai vu ce groupe-là, c'est un groupe vraiment très homogène qui, sur le terrain, a cette envie-là véritablement de s'éclater. Je crois que c'est une force pour l'AS Real. Donc, la SEC aujourd'hui, qui est en pleine reconstruction, qui cherche toujours à revenir sur le plan africain, fait match contre cette formation malienne-là. Je crois que c'est une très bonne chose. C'est pour cela, d'ailleurs, que je voulais rejoindre l'entraîneur donc, de la SEC, Traoré, pour dire véritablement que c'est un bon résultat pour la SEC Gaillé. Le nul à l'extérieur, c'est véritablement très bien pour cette formation de Limosa.
Voilà, merci Salif. Et dans le groupe B, Al Ahly d'Égypte a fait une écrasante victoire contre le Nkana Red Devils, 2-0. Le CW Sport de San Pedro, l'autre équipe, grande équipe ivoirienne, donc, a fait match nul contre l'Étoile du Sahel de Tunis, donc l'AC Léopard du Congo et le Coton Sport. Ce match a été reporté pour une date ultérieure. Élisée, on revient sur ce match du CW Sport, donc qui quand même a concédé un score d'un but partout contre l'Étoile du Sahel, ce qui complique un peu leur tâche au match retour à l'étranger.
Bien évidemment, mais il reste encore 5 matchs, Bagassi Koura, il faut le dire, c'est un championnat linéaire où vous devez recevoir et être aussi en déplacement. Maintenant, le plus rapidement possible, c'est d'aller faire un bon résultat du côté du National à la Ligue, duquel ce serait très difficile. C'est un match équilibré d'ailleurs dès l'entame où l'équipe de CW Sport s'est procuré plusieurs occasions, notamment avec son attaquant Kevin Zuguya qui aurait pu marquer à 2 reprises, mais petit à petit, j'allais dire, ils ont laissé les Tunisiens rentrer dans le match et les Tunisiens ont le privilège de marquer en première position. Et après, ce fut très difficile pour ces Ivoiriens. C'est vrai qu'ils ont fait un match remarquable contre le tout-puissant Mazembe, on se rappelle, lors du dernier tour qualificatif de la Ligue des Champions. Et là, maintenant, CW Sport a baissé un peu de régime, mais c'est un groupe très difficile. Et pour se passer, vous l'avez dit, ce serait très difficile. Et les Ivoiriens doivent hausser le niveau de leur jeu s'ils veulent être du rendez-vous des demi-finales.
Voilà, merci.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Du 12 juin au 13 juillet, retrouvez-moi tous les jours en direct du Brésil pour le journal de la Coupe du Monde. Les résultats, les coulisses et les à côté de cet événement planétaire. Matin et soir, la voix de l'Amérique à l'heure brésilienne pendant un mois. Sans oublier notre site internet www.lavoixdelamerique.com ou notre page Facebook. La Coupe du Monde, évidemment à suivre sur La Voix de l'Amérique.
Voilà, CAN des moins de 20 ans, la manche retour du deuxième tour éliminatoire de la CAN des moins de 20 ans, Sénégal 2015, se joue cette fin de semaine sur le continent. Ce soir, nous nous intéressons à deux matchs en particulier. D'abord, à Yaoundé, le Cameroun reçoit le Burundi. Malgré le succès 1-0 à Bujumbura, Aboubakar Souleymane, lui c'est le coach camerounais qui reste donc très prudent.
Ça, il va de notre devoir. Si on veut bien se qualifier pour la suite de la compétition, nous sommes obligés de mettre, n'est-ce pas, faire des débouchés doubles pour venir à bout de cette machine burundaise. Parce que je peux vous rassurer que tout n'est pas encore gagné. Mais ce n'est qu'une partie. Maintenant, la deuxième partie, c'est à Yaoundé, chez nous. Bon, je pense que, avec cet avantage psychologique, puisque nous jouons à domicile, nous pouvons dire que toutes les chances sont de notre côté. Mais, comme je le disais tantôt sur les autres chaînes, nous avons été avertis. Maintenant, il est à nous, n'est-ce pas, de prendre toutes les dispositions possibles pour se qualifier pour la suite de la compétition. Ça, je peux rassurer que c'est la mission qu'on nous a assignée, de faire qualifier le pays. Et je pense que nous ne sommes pas sur la mauvaise voie. S'il plaît à Dieu, nous arriverons.
Voilà, c'était Aboubakar Souleymane, le coach l'équipe du Cameroun est à Libreville. Le Gabon reçoit le Rwanda à l'aller à Kigali. Les deux équipes avaient fait un score vierge de 0 but partout. Écoutez Rigobert Nzamba du Gabon.
Il faut aussi dire une chose, que le Rwanda aussi devait aussi gagner à domicile. Si le Rwanda n'a pas gagné à domicile, nous partons, c'est vrai, tous avec un score de 0-0. C'est vrai que nous nous jouons avec la pression, mais ce qui est sûr, c'est que nous, chez nous, forcément, il faut gagner ce match. Quelles que soient les conditions, on cherchera à prendre la victoire et puis voilà pour qu'on poursuive le Ghana.
Est-ce que vous avez les atouts pour?
Mais pourquoi pas? Je crois que vous avez même suivi le match du Rwanda. Malgré nul n'était aussi l'aide de l'arbitre, je crois qu'on devait faire la différence au niveau de Kigali. Le pénalty qu'il nous refuse catégoriquement. Bref, on a eu des occasions. Mais ce qui est sûr, c'est que je sais que c'est une bonne équipe qui revient de la Coupe du Monde, je crois, junior bien cadette. Mais qu'ils sachent aussi qu'ils viennent de retrouver le Gabon à domicile. Et on ne se laissera pas faire. Et forcément, nous chercherons à gagner ce match.
Il reste que la pression sera sur vous. Vous jouez à domicile.
Oh, je suis habitué avec la pression et j'apprécie la pression. Au contraire, c'est grâce à la pression que je progresse dans mon métier. Un entraîneur qui n'a pas de pression, c'est pas un entraîneur à mon avis. Mais la pression ne me fait pas peur. Moi, le plus important, c'est de gagner le match. Et comme nous sommes fixés des objectifs, l'objectif intermédiaire, c'est le Sénégal 2015. Et l'objectif principal, c'est la Coupe du Monde, bien sûr. Mais la pression, ça ne me dit rien du tout. On est déjà habitué à ça. On sait vraiment gérer la pression.
Voilà, c'était Rigobert Nzamba du Gabon. Il est l'entraîneur de l'équipe junior.
Il nous fallait avoir une certaine...
Voilà, donc on continue dans Sporama sur la Voix de l'Amérique. En basketball cette fois-ci, les responsables de la NBA Afrique ont organisé un camp à Ouagadougou, au Burkina Faso, avec la participation de 8 pays du continent. On écoute Amadou Gallo Fall, il est le vice-président Afrique de la NBA.
Il nous fallait avoir une certaine discipline pour pouvoir nous focaliser sur certaines zones de développement. Mais nous cherchons à élargir, à essayer de toucher le plus grand nombre de jeunes parce que nous pensons qu'en Afrique, nous avons une opportunité unique d'utiliser notre sport pour vraiment encourager les jeunes à se focaliser sur des compétences de vie courante. À travers le basket, nous incitons nos jeunes à aller à l'école, à obtenir des diplômes universitaires. C'est l'opportunité unique que le basketball offre.
Voilà, c'était donc le vice-président Afrique de la NBA, Amadou Gallo Fall, au micro de Salif Kabore à Ouagadougou. Alors Jules, on revient à vous pour parler de cette équipe junior du Gabon que vous connaissez certainement très bien. Ils vont avoir bientôt leur match donc contre le Rwanda. Comment est-ce que vous voyez cette rencontre?
Oui, mais avec un certain optimisme. Le Gabon, depuis quelques années, montre l'exemple au niveau de la formation. Il y a une pépinière très riche qui nous revient d'année en année et notamment des joueurs qui sortent des équipes de football qui ont des... réellement et qui, ma foi, pendant les matchs, donnent pour avoir l'impression d'être en catégorie supérieure. Donc, je crois qu'avec un 0-0 qu'ils ont eu au match aller, ils auront à cœur de faire la différence ici. Mais attention, ils jouent contre des joueurs d'altitude qui, en arrivée au niveau de la mer, sont souvent un peu plus physiques. Donc, mais d'une manière générale, le Gabon part favori.
Voilà. Donc, avant de revenir aux deux autres et de fermer l'émission, donc les finales de la NBA se poursuivent ici aux États-Unis ce soir. Oklahoma affronte San Antonio. Donc, on nous dit que le temps est assez serré. C'est donc ainsi que s'achève notre émission. Merci à Jules Valentin Ngoué, Salif Kabore, Élisée Mpatine à Boïcon au Bénin. Ici, c'était Bagassi Kouraï et Lionel Gaïman a assuré la production. Passez une excellente soirée et à lundi prochain pour un autre numéro de Sporama.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.